années 80, mes femmes jusqu'au bout des seins, ayant réussi l'amalgame de l'autorité et du charme. Femmes des années 80, moi Colombine Carlequin, sachant bien noter sur la gamme, qui va du grand sourire aux larmes. Être un PDG en bas noir, sexy comme autrefois les stars, être un général d'infanterie, rouler des patins aux conscrits, enceinte jusqu'au fond des yeux, qu'on a envie d'appeler monsieur, être un flic ou pompier de service, et donner le sein à mon fils.
Bienvenue à l'émission Chez Betty. On vous souhaite une bonne année 2020. Bonjour Coco.
Bonjour.
Bonne année à toi.
Merci.
Aujourd'hui, ben oui, aujourd'hui, nos invités sont Émilie Delettré. Bonjour Émilie.
Bonjour les filles.
Bonjour. On dit Michael ou Michael?
Michael.
Michael, parce qu'il y a un H.
Oui, mais on dit Michael quand même.
Ben, bonjour du coup, bonne année.
Bonjour Betty, bonjour Coco.
Bonjour.
Donc nos invités aujourd'hui, on est sous le signe du rire, on va dire, entre guillemets.
Ouais, on n'est pas là pour avoir des madeleines.
Non. Donc on commence l'année bien, en rigolant, on va dire. Hein. Donc on parlera de votre
actualité.
Ouais. Mmh. On dit pièce de théâtre ou show?
Ouais,
ou...
notre comédie.
Comédie.
Voilà.
Ok. Qui s'appelle?
D'un sexe à l'autre.
J'ai déjà vu.
T'as aimé?
Ouais.
Oh, c'est cool.
Mais j'avais vu autre chose aussi.
Ah,
les confidences.
Ah, d'une bouchère.
J'avais été voir. Très bien, on a bien rigolé.
Merci.
Pour les deux, hein.
Ouais. Pardon.
Sinon, il y en a un qui va être jaloux. Ouais. Surtout qu'il est en minorité, hein.
Ah oui, je suis bien entourée.
Ouais, voilà. Donc, on va commencer par l'actualité féminine. C'est parti, Angel. Michael qui nous chante le petit jingle d'Alas. Mais t'étais pas à l'antenne, donc on t'a pas entendu.
Ah zut, Dallas, ton univers impitoyable.
C'est ça. On est reparti. Donc du coup, donc l'actualité féminine d'aujourd'hui, je vais surtout parler des chiffres du féminicide.
Ah,
ouais, qui sont pas très glorieux. D'accord, donc on est à 149 féminicides en 2019. Ouais.
Beaucoup trop.
Un peu trop. Dont on n'entend plus parler.
Ouais, bah ouais.
On était à 121 en 2018.
Ah ouais.
Ouais. Donc, à croire qu'on parlait, ça a donné un.
Un élan aussi.
Ouais, un élan. Et en 2020, on est déjà à 4.
Ah ouais.
Ouais.
On est 8.
Ouais.
Mais c'est une femme tous les deux jours, malheureusement.
Ouais. Bah là, il y en a eu deux qui sont décédées le même jour.
D'accord.
Donc, depuis le Grenelle, bah, du coup, on n'entend plus rien du tout.
Il ne se passe pas grand-chose.
Non, il ne se passe plus rien. C'est à croire qu'on coûte tellement cher qu'on préfère nous voir sous terre que plutôt, n'est-ce pas? Oui. Donc, voilà. Donc, on passera à autre chose. Hein. Non, mais du coup, malheureusement, les chiffres sont tels qu'ils sont à l'heure actuelle. Il n'y a pas grand-chose qui a été fait au Grenelle. Et du coup, nous, tout le collectif, continue le combat... Et grâce à elle, on espère que les choses vont bouger. Donc, bah, écoute, Angel, tu nous passes petite musique avant de reprendre nos invités et d'avoir quelque chose de plus...
glorieux.
Ouais.
Donc, alors, cette fois, je vais vous passer Passion Play de Sugar Hill Gang, sorti en 1979.
Mais on écoute ça.
Très belle année, 79.
T'étais pas né.
Oui,
non,
j'étais pas né.
Mais il écoute les musiques...
Il était dans les couilles de son père.
Ouais. We'll be right back. Voici à notre petite rubrique donc interview. Et là, je vais vous parler d'un petit texte sur l'humour, justement. Ah. Qu'est-ce que l'humour ? Parce qu'on n'en parle pas vraiment, on le dit beaucoup, on essaye de faire de l'humour. Donc, bien que la plupart d'entre nous y ont souvent recours, on va dire même très souvent, n'est-ce pas ?
Ouais, ça permet de dédramatiser souvent.
Et puis de faire passer beaucoup de choses. Mais parfois inconsciemment, d'autres essaient tant bien que mal de le manier. Ces derniers se demandent encore, mais qu'est-ce que c'est que l'humour exactement ? Ce n'est pas seulement un paquet de moyens que l'on utilise pour faire rire les gens, comme on croit le plus souvent. Et ce n'est pas non plus les blagues du beau-frère le dimanche après-midi. Non, non, non. C'est un peu plus compliqué que cela. C'est comme tout ce qui brille n'est pas or. Tout ce qui se rattache à l'humour ne fait pas nécessairement rire. Et tout ce qui fait rire n'est pas nécessairement de l'humour. Plusieurs théories ont été faites sur l'humour pour expliquer ce qu'il est. Et certaines d'entre elles remontent à bien loin que nos humoristes d'aujourd'hui. Donc, vous allez être étonnés. Donc, la théorie sur l'humour. Il faut tout d'abord savoir que l'humour est le dérivé de humor, qui désignait dans l'Antiquité quatre principaux fluides corporels.
Ah ben alors, et lesquels étaient-ils?
Donc, le sang.
Ouais.
On voit pas trop le rapport, mais bon. Donc, la bile.
Ouais. Mm-hmm. Si, parce que c'est en rapport avec les humeurs, justement.
L'humour, tu crois?
Non, mais les fluides.
Oui.
Mais
humour et humeur, il n'y a qu'une lettre qui change. Hein.
Oui aussi, c'est pas
comme
tort.
Comme amour.
Tu crois? Ensuite, la pituite.
Ah oui, j'ai souvent la pituite qui coule, moi. Ce que ça veut dire, mais ça sonne bien.
c'est aussi. Et la trabile.
Ah.
Je ne connaissais pas.
Moi, j'ai écrit une latrabile.
Ouais, voilà. Les deux derniers, je ne connaissais pas trop. Donc, des médecins du 1er siècle de notre ère, comme Hippocrate.
Ah, je connais bien.
Tu vois,
c'est
ou Galien, ouais, croyaient que le corps humain était constitué de ces divers liquides. La santé et l'humeur dépendaient de l'équilibre de ces quatre fluides. Tu vois,
ah,
on n'était pas loin. Donc, là, du coup, des quatre fluides. Attends, du coup, je suis perdue. Par exemple, si une personne a beaucoup de sang dans son système, elle aura un caractère sanguin et sera chaleureux et aimable. Tandis qu'une personne qui a beaucoup de bile dans le corps sera flegmatique et angoissée. D'où l'expression « se faire de la bile ».
D'accord. Mmh. Logique.
Oui, logique que l'humour dépend de tout ça, mais bon. Donc Galien croyait que l'humour était un état des humeurs, parmi d'autres, et était aussi causé par un de leurs mélanges bien spécifiques.
30% de, voilà. de bile avec...
Ce déséquilibre qu'était l'humour était considéré comme la colère, l'angoisse ou l'excitation. Ah, comme un état anormal, une maladie. Et devrait donc être guéri.
On est des grands malades, je crois, Michael.
Ouais, voilà. De toute façon, tout est une maladie, allez écouter. Hein. Donc, oui, donc du coup, on est désolé de vous apprendre, mais l'humour est une maladie.
Moi, ça me va bien, la folie.
Voilà. Donc, volet historique, on va parler un petit peu d'histoire. L'humour, en tant qu'expression de l'agressivité, voilà, il paraît qu'on est agressif, possède fièrement une longue tradition. Il est possible de voir une de ses premières apparitions dans la Bible, où il est présent avec une connotation agressive. Ensuite, les penseurs grecs se sont également penchés là-dessus. Platon situait la source principale du rire dans le ridicule des autres et dans l'attaque de leur faiblesse.
Ah ouais.
Ça m'étonne pas pour la Bible. Hein. Quand il a sorti « Tu ne tueras pas », tu m'as arrêté plus long, putain.
Bah, les gens, ils ont rigolé.
Mais ouais, on regarde tous dans la même direction. Bah, après, on s'étonne qu'il y ait des homosexuels.
Et bah, voilà.
Si on ne peut pas crucifier quelques chrétiens, on va s'emmerder, merde.
Ça devait être marrant, en fait, de tuer les gens à l'époque. Donc, Aristote, lui, pensait que le rire donnait le plaisir d'abaisser l'autre.
Ah. Ouais, donc c'est une forme d'humour, le cynisme aussi, ça peut être.
Voilà.
Ouais.
Rire de quelqu'un, c'est le rendre ridicule et répugnant. Mmh. Le rire était si fort dans la Grèce antique qu'on lui attribuait une force magique.
Ah d'accord.
Ouais. C'est un pouvoir qu'on pouvait retrouver dans plusieurs légendes, par exemple dans celle d'Archiloque, l'inventeur du... Il y en a un qui fait des bêtises.
Mais dès que tu lui mets un truc devant la bouche,
ça baisse.
Il monte et il baisse son micro. Bon alors.
C'est qu'il baisse tout seul.
Lui, il le fait tout seul. Donc Archidoc.
Ouais, voilà. Donc l'inventeur des. Du coup, je vais pas savoir y arriver. Hein. Donc l'inventeur de la satire.
Ah oui. Ah ben, je ne savais pas.
Voilà. Donc il était le fils d'un prêtre. Oh bah et d'une esclave, donc c'est pas étonnant.
On en revient.
Voilà. Il avait reçu la promesse du père et de sa bien-aimée qu'il pouvait la marier. Plus tard, le père découvrit les racines du jeune homme et donc il revint sur sa parole. Donc il était plus consentant pour le mariage. Donc il est vexé. Il composa des vers où il se moquait du père et il décida de les lire en public, ce qui fit d'eux la risée générale. Le père et la fille, ne pouvant plus supporter le ridicule, décidèrent de se suicider. Bah, c'est gay, hein, l'humour, hein.
T'as fait une blague trop importante, hein. Ouais. Je m'auto-suicide.
Par contre, il n'y a pas seulement les anciens Grecs qui utilisaient l'humour comme un instrument d'attaque. Au Moyen-Âge, les tribus arabes utilisaient cela dans les combats.
Ah bon?
Eh ben ouais.
Eh, hey, tu connais la blague à Toto?
Ça existait, tu sais, les... Ils devaient s'auto... au lieu de se bagarrer, bah, c'était...
Une battle de blagues.
Ouais, une battle de blagues. Donc, un poète quelconque avant-guerre composait des satires ridiculisant l'ennemi. Lorsque la tribu partait pour sa bataille, le poète était à la tête des guerriers et déclarait ses vers. On est dans Roméo et Juliette. Hein. Donc, à la fin de la bataille, le poète avait les mêmes honneurs que les héros qui combattaient au sabre.
Ça piquait pas.
Non, ça faisait pas trop mal. Selon certaines sources, l'origine du rire se trouve dans l'évolution du combat physique chez l'homme primitif. En effet, lorsque le combat était terminé, le vainqueur relâchait, grâce au rire, la tension que l'effort physique lui avait imposée. Le vainqueur devait rééquilibrer sa tension d'une manière très différente en pleurant. De plus, suite au combat, le vaincu en sortait généralement avec des ecchymoses qui étaient très visibles. Plus tard, la simple vue de ces déformations engendrait le rire, ce qui augmentait la supériorité du vainqueur. Ce serait de cette manière que le ridicule et ainsi la peur de faire rire ne serait nous serait né. Donc, la peur d'être perdant. Avec le temps, le combat intellectuel a graduellement remplacé le combat physique. C'est en effet le principe que le combat physique désire de vaincre, faire compétition. Le vainqueur rit, le perdant embarrassé, pardon, mais avec les mots.
Ah ouais.
Je pense que Zemmour me fait beaucoup rire.
Ouais, voilà. Donc, en fait, ouais, le rire est un combat.
Eh ben voilà. Ouais, bah, donc, je suis championne du monde.
Ben, venez vous battre le 6 février. Ça va voilà.
Donc du coup, sur ce, c'est gay. Hein. Alors on parle de féminicide, on parle maintenant c'est des combats physiques.
Ouais. Mmh. On est content d'être chez Betty.
Donc revenons à vous.
Oui.
Émilie et Michael. Alors dites-nous tout.
Eh bien justement, vous allez pouvoir nous voir dans une comédie qui s'appelle D'un sexe à l'autre.
Qui se jouera le 6 février à 20h au Théâtre Sébastopol.
Oui, c'est dans 3 semaines. Il reste de la place, mais plus beaucoup. Donc dépêchez-vous.
Mais qu'est-ce que ça raconte
Vous pouvez réserver.
Bah oui, qu'est-ce que ça raconte
Alors, qu'est-ce que ça raconte L'histoire d'un couple qui se dispute.
Voilà.
Et au début, et puis.
Comme tous les couples.
Mais oui,
et puis Clarisse dispute, qui joue.
Des chats Emma et Rie, on dira plus. Parce que c'est pas du combat physique.
Oui, non, non.
Et puis Clarisse qui fait ma compagne fait le vœu pieux de...
Ah bah j'aimerais bien que tu te mettes à ma place au moins 3 secondes. Ah non, mieux chérie, 3 jours à ma place, 3 jours dans mon corps.
Et du coup, voilà, le lendemain on se réveille et je suis Clarisse dans un corps masculin.
Et moi donc je suis Bertrand dans un corps hyper féminin.
Voilà, et la comédie commence. Et voilà. On se marre pendant 1h15.
Et c'est à voir.
Parce que la chance qu'on a, c'est qu'on se connaît depuis très très longtemps avec Émilie. On a eu l'habitude de jouer en improvisation.
J'ai peur. Il y a des auditeurs.
Et du coup, en impro, on peut partir en impro dans le spectacle quand on veut. Et voilà. On se marre beaucoup.
Parce que du coup, vous l'aviez déjà joué avant.
Oui.
Bien sûr, il a 4 ans ce spectacle.
Ouais, mais du coup, en fait, le spectacle que vous avez fait la veille ne ressemblera peut-être pas au spectacle que vous allez faire.
À 90% si, parce que tout est écrit quand même. Mais ouais. C'est vrai qu'on se laisse une part d'improvisation dans le spectacle.
Ouais, voilà. Il y a toujours de la connerie supplémentaire. Voilà, ça, c'est
il y a toujours un truc à venir voir. Quoi.
Voilà.
Ouais. Et puis en plus, il y aura une surprise ce jour-là.
Ouais, mais c'est une surprise, alors on ne dit pas.
À la fin.
On va danser la Macarena à la fin.
Non épilée.
C'est une façon de voir les choses. Hein.
Donc c'est à 20h au théâtre Sébastopol. Et je disais donc vous pouvez réserver vos places au théâtre Sébastopol
ou
alors sur le site du théâtre. Alors sur le site du théâtre Sébastopol ou alors sur le site de la Fnac ou alors directement sur place.
S'il reste de la place.
Ouais, enfin, à la billetterie.
Il en reste, mais ça va vite. On est très content.
Et comment a débuté comment a débuté cette pièce de théâtre? Vous vous êtes rencontrés? Alors, c'est venu comme ça?
Non. En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, je vis toujours d'ailleurs en couple, et souvent on se dit que ce sera bien un peu que l'autre se mette à la place.
Place, voilà.
Et un jour, je lis une BD et il y a une planche. De cette nana qui dit j'aimerais bien être dans ton corps, et là je me dis mais il y a quelque chose à faire, et du coup j'avais jamais fait de comédie, j'avais vraiment envie d'écrire et de me lancer dans ce projet, et ça a été une évidence connaissant Michael depuis 15 ans et puis lui étant justement rodé aux comédies, j'ai eu vraiment envie qu'on coécrive ce spectacle. Mm-hmm. Et voilà, et dès que j'ai parlé du projet,
J'ai dit banco. Et puis, on a pu roder ce spectacle au théâtre du Spotlight à Lille.
Ouais, ouais.
On l'a joué beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ce qui fait qu'on a pu améliorer à chaque fois. Et puis,
putain, j'ai repeint les murs.
Elle a perdu 4 neurones.
Ouais, bonne année.
Cramé. Et de ce fait, eh bien, le spectacle est super bien rodé parce qu'on l'a déjà joué au moins 250 fois depuis qu'on l'a créé.
Mais là, au théâtre de Sébastopol, c'est la première fois.
Oui, oui, là, c'est la première fois.
Et puis, il sera rejoué aussi.
Oui, alors il sera rejoué par la suite. On va surtout faire le Festival d'Avignon.
C'est cool, ça.
Ouais, 19h30 au théâtre Carnot. On sait déjà qu'on va jouer là-bas pour 2020.
Avec cette pièce-là.
Avec cette pièce-là.
Ouais.
Bah, c'est cool.
Ouais, on est plutôt contents.
Ça marche bien.
Mais ouais, à fond les ballons.
Mais c'est vrai qu'elle est marrante. Il faut aller la voir.
C'est ça.
Ouais.
Bah, si vous venez pas, vous ferez une grave erreur.
Aussi. Puis bon, faut dépenser ses étrennes.
Ben oui, ouais, puis c'est pas si cher que ça pour le coup.
Non, non, les places vont de 20 à 30 euros.
Ouais, oui, ça. Donc ça va. Ouais. Et c'est au Sébasto.
Et c'est au Sébasto. Et ça, c'est un événement. Moi, je voulais le faire depuis que je suis gamin. Ce théâtre à l'italienne, c'est un véritable écrin. Il y a un rapport public extraordinaire. On a déjà eu la chance de faire des plateaux d'humour là-bas.
Ouais.
Et du coup, c'est génial de se retrouver dans cette salle. Vraiment.
Ouais, il est magnifique. Enfin, le Sébastopol est magnifique.
Oui, et puis en tant que Nordiste, c'est quand même un peu la consécration, quoi.
Ouais. Quand même.
Une des consécrations.
Une des consécrations.
La prochaine, on fait l'Olympia.
Bah, c'est bien.
C'est un bar du côté de Kerk.
Mais c'est l'Olympia quand même. Hein. Ouais, alors, c'est quand même l'Olympia.
Il y a la salle l'Olympia à l'homme aussi.
Oui, c'est vrai que ça existe. Ça existe.
Ah oui, il y a la salle l'Olympia à l'homme aussi. Ouais. Ouais. C'est quoi?
C'est un petit théâtre. Qui s'appelle l'Olympia. Les gens étaient ambitieux.
Défaite, ouais.
Ouais, les gens étaient ambitieux. Ils ont peut-être appelé l'Olympia avant que.
Peut-être, ouais, peut-être. Je ne sais pas. Je ne connais pas l'histoire.
Mais non plus. Donc, du coup, moi, j'aimerais bien que vous nous parliez en fait de votre CV.
Ah.
On va dire, parce que à la base, moi, je trouve fascinant au jour d'aujourd'hui, ouais, c'est qu'il y a beaucoup d'humoristes qui ont été dans l'éducation nationale avant.
Ouais, c'est vrai que ça, c'est notre point commun, hein, Mickaël et moi.
C'est notre point commun. Alors, on a ce point commun que toi, tu étais dans l'éducation nationale, moi aussi. Alors, toi, en tant qu'institut, moi, en tant que prof,
exact,
en lycée professionnel. Et alors, sans le savoir, nous avons démissionné la même année.
Ah oui ?
Ouais.
C'est-à-dire que moi, j'ai démissionné en janvier 2010, donc ça fait pile 10 ans.
Et moi, c'était en septembre 2010.
Voilà.
Ah ouais.
Ouais.
Et donc on va fêter finalement nos 10 ans de
nos 20
carrière.
Ans chérie, on est deux maintenant.
De divorce avec l'éducation nationale.
10 ans de carrière dans la comédie.
Voilà. Ouais. Non, puis on s'est connus avec Mickaël, on s'est connus tous les deux en faisant de l'impro il y a de ça 20 kilos. Et puis on a démissionné on a eu cette chance de pouvoir démissionner, de vivre de notre art. Quoi.
Ouais.
Mais vous faisiez ça même en étant prof
Alors moi, pour ma part, lorsque j'étais instit, pendant 10 ans, je faisais du théâtre d'improvisation en amateur. Et puis, de fil en aiguille, j'ai écrit mon premier spectacle qui s'appelle toujours d'ailleurs L'art indélicat de la féminité, que j'ai commencé à tourner. Pour moi, c'était juste un spectacle de fête de fin d'année. Et puis finalement, il a eu son succès. Et de fil en aiguille, j'ai démissionné pour ne faire que ça.
Bah oui, de fil en aiguille, ça fait boule de neige. Hein.
Dis, ben ouais.
Toi, Mickaël, t'avais aussi ton spectacle en tant que prof.
Moi, j'ai commencé très tard la scène. J'ai commencé à l'âge de 30 ans. Finalement.
Et comme puis, quoi, il n'y a pas d'âge.
Non, j'ai commencé, j'étais déjà prof, et puis j'ai écrit pas mal de sketchs, et je suis allé les tester notamment chez Arnaud Delerue, à la pitch du pianiste, que je remercie. Mm-hmm. Et puis, progressivement, la scène a pris le pas sur le métier de prof. Donc, à un moment donné, j'ai dit, bon,
tu ne pouvais plus t'en passer.
Non. Donc, du coup, j'ai dit, allez, je démissionne, et puis je ferai que ça, et on verra bien. Donc, j'ai écrit plusieurs spectacles, et puis j'ai fait aussi pas mal de téléfilms, de courts-métrages, un peu de films. Donc, de l'impro.
La publicité.
Alors, j'ai fait une pub.
C'était quoi
une pub.
Pour Calgon.
Pour pas le citer.
Ah, faut pas le dire, pour Calgon.
Pour Calgon.
Et voilà. Et puis. Là, on est de plus en plus dans une belle dynamique. On a de plus en plus de boulot. Et ça, c'est chouette.
Mais ça, c'est bien.
Oui.
Parce que c'est pas donné à tous les artistes.
Mais je pense que le fait que, justement, on était dans l'éducation nationale et que, parallèlement à ça, on faisait notre art, on n'est pas arrivé novice, quoi. Hein. Je veux dire, le risque était... était calculé quand même. Et on a eu tout de suite notre statut. Bon, il se trouve que dans le Nord, on a été aussi voilà, les précurseurs d'un mouvement maintenant qui... Il y a plein d'artistes en ce moment, d'humoristes notamment, nordistes. Voilà.
Puis il y a eu des salles qui se sont ouvertes, par exemple le Spotlight à Lille, ça fait également 10 ans.
Oui,
et,
aussi.
Et les patrons du Spotlight, moi par exemple, m'avaient vu à la Pénine du Pianisme, ils m'ont dit on va ouvrir un lieu, on adore ton spectacle, parce que j'avais un one et j'ai toujours mon one là, qui s'appelle Une belle vie de merde. Et du coup, ils ont adoré ce spectacle et puis je l'ai joué très très souvent là-bas. Voilà.
C'est bien.
Merci Marc et Isa.
Mais oui. En fait, vous êtes, tout s'est bien enchaîné. Vous êtes bien tombé
les étoiles
sur
avec
le bon moment, les bonnes personnes.
Exactement, exactement. Ouais. Après, je pense qu'il y avait une telle volonté en nous. Enfin, en tout cas, pour moi, c'était vital d'être sur scène. Je pense que toi, c'était pareil, Mick. Et c'est ça qui nous a animés. Donc, je pense que quand on veut quelque chose, on fait tout pour l'obtenir.
Bah, par exemple, sur la date au Sébastopol qu'on va faire, là, moi, je vais voir Gaëtan Roussel il y a un an au théâtre Sébastopol. Je sors de là en disant, je veux faire le Sébastopol. Avec ce spectacle d'un sexe à l'autre, j'y crois tellement à ce spectacle parce que vraiment c'est très drôle. Donc j'appelle Émilie, je dis écoute Émilie, quitte à faire un prêt, mais on va faire le théâtre Sébastopol.
Quitte à faire un prêt.
Ouais.
Quitte à faire un prêt.
Moi j'ai dit c'est pas grave, on revendra le rein de la gamine.
Et du coup, j'ai poussé la porte de Vérone qui s'occupe du Sébastopol et puis on a pris une date et. Maintenant, c'est eux qui coproduisent le spectacle.
Qui produisent le spectacle.
Voilà. Non, pour le coup, c'est la volonté là, de Mickaël qui fait qu'on en est là.
Voilà,
merci Véronne Productions, merci Mickaël Loucher.
Merci. Oui, voilà. Mais du coup, en fait, c'est la prod de référence, c'est Véronne.
Voilà, maintenant dans nous Nord, sommes. Oui. Ouais. Ah oui, puis dans le Nord, oui, c'est la référence.
Ouais,
mais pour
aussi.
Ce spectacle, oui, maintenant, on est en production avec eux.
D'accord. Donc en fait, si on veut passer au Sébasto, Coco, il faut qu'on aille voir Vérone.
C'est
voilà.
Ça.
C'est ça.
Maintenant, on va passer une petite musique, Angel.
Donc alors cette fois, je vais vous passer You Can't Hide de David Joseph, sorti en 1983.
T'étais pas né.
Toujours pas.
Comme un poisson. Un poisson pas né. Ouh là là, enchaîne. We'll be right back.
Oui, ah bah, on est à l'antenne. Voilà. Angèle, il nous dit pas et on parle et on parle et on parle. Donc on revient à nos moutons, comme on pourrait dire. Mm-hmm. Donc on rappelle donc votre comédie.
D'un sexe à l'autre.
Le 6 février 2020 à 20h au théâtre Sébastopol.
C'est un lieu à découvrir, c'est une pièce à découvrir.
Des comédiens
à découvrir.
Et une radio à découvrir.
Comme ça, tout est dit. Du coup, comment dire, ça vous a pris combien de temps de faire cette pièce de théâtre ?
Alors, ça, c'est une belle question parce qu'il y a eu plusieurs étapes. Ouais. Il y a eu la toute première étape entre le moment où on a eu envie de l'écrire et le premier moment où on a mis les pieds sur scène. Il s'est passé quoi ? 6-8 mois à peu près ?
Ouais, ouais, ouais.
Voilà, ça c'est la toute première étape. Mm-hmm. Mais il faut savoir que la première fois où on a mis les pieds sur scène et aujourd'hui, il y a eu...
Il y a 18 versions.
Ouais, 18 sur papier, il y a eu 18 versions.
On a
mais
18 versions.
Et encore, il y en a qu'on n'a pas mis, ouais. Voilà, qu'on a fait... C'est-à-dire que dès qu'il y avait un truc qui fonctionnait devant le public, on se disait « Ah, ça c'est bon, ça on le garde !» Parce que justement, on avait cette force d'improvisation, on le reprenait. Puis d'autres choses qui fonctionnaient moins bien, la version qu'il y a aujourd'hui n'a quasi plus rien à voir avec celle du départ.
Ah ben c'est sûr.
Et sûrement celle du départ dans la tête.
Voilà, c'est ça.
Parce que c'est vrai que le rire, c'est à la seconde près, au mot près, à l'intention près, au geste près. Donc, il faut reproduire ça tout en gardant la fraîcheur
et
la créativité.
Et
c'est ça la difficulté. Mais en fait, il y avait une question de rythme aussi dans le spectacle. Donc, on avait des sketchs les uns derrière les autres qui forment une globalité et une histoire globale. Et parfois, on devait juste se dire « Mais ce sketch-là, il est trop tôt. » Ou alors, celui-là, on va le décaler. Mm-hmm. On va le raccourcir. On va l'agrandir. Parce que comme du rythme, il ne faut pas qu'on ait plusieurs séquences de la même longueur. Sinon,
d'accord.
Ça se lasse. Donc, tout ça c'est à travailler.
Et c'est un sacré boulot. Hein.
Donc, oui, il y a eu 18 versions. C'est ça.
Les gens ne se rendent pas compte.
Alors, ceux qui. Voilà.
Ce que l'on doit faire avant. Quoi.
Ouais, ça, c'est sûr. Bah, c'est sûr que c'est du boulot. Ouais.
Et puis, la difficulté dans ce spectacle au départ, c'est que comme on change de sexe, pour le public s'y retrouve, moi, finalement, je suis Clarisse, mais je reste un mec dans mon corps.
Ouais. Et moi, je suis Bertrand dans un corps de femme.
Donc, parfois, les premières représentations, le public dit mais qui est qui ?
Alors, qui est qui déjà ?
Alors, du coup, nous, on a vite rectifié le tir pour que ça soit très, très clair, le propos. Ouais. À chaque fois, on rappelle le code de qui est qui, finalement. Assez subtilement dans chaque scénette, mais à chaque fois, on rappelle le code, ce qui fait que là, le public ne se pose plus de questions. Et du coup, comme ça...
Le code, ça peut être vestimentaire, une façon de...
Une manie, voix, une posture, puis de redire Clarisse.
Bertrand, voilà. C'est très clair. Parce que si jamais le public fronce les sourcils, ils ne sont plus aptes à rire.
Ouais. Ils sont déconnectés et du coup ils ne suivent plus.
C'est ça.
Et là,
c'est-à-dire
ça a été
si on n'a plus le code.
Ça, une fois qu'on a eu ce cap de passé où tout était bien clair, mm-hmm. après, on a commencé aussi à rajouter des blagues, à rajouter des situations. Et donc ça donne
voilà.
Le spectacle.
Par exemple, il y a tout un passage. Voilà, quand on met un garçon et une fille qui sont, enfin un couple, mm-hmm. dans un mariage. Voilà, il y a la femme qui va regarder la robe de mariée, qui va critiquer les chaussures, machin. Mmh. Alors que l'homme, lui, il a juste envie que la messe se termine et puis d'aller boire un coup. Et qu'est-ce que ça donne quand on inverse les rôles ? C'est hyper intéressant, en fait.
Et ce qui est intéressant aussi, c'est que finalement, on démonte les clichés. Alors, même si on part de clichés, finalement, ça devient plus cliché parce que comme on est dans le corps de l'un et l'autre, ça démonte tout. Et c'est ça l'intérêt aussi de cette pièce.
Et on peut parler avec grande liberté. Quoi.
Ouais, mais du coup, dans la pièce, on voit qu'au fur et à mesure, l'autre comprend ce que ressent.
Et voilà. C'est le but, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand Clarisse a été dans le corps de Bertrand, mm-hmm. elle commence à comprendre la réalité du monde des hommes.
Ouais.
Et du coup, en fait, l'idée, c'est comment en couple on communique alors que c'est à ta vie que je veux dire l'homme et la femme ne sont pas pareils, c'est Mars et Vénus.
Ouais.
Donc comment on apprend avec un mode de fonctionnement différent, comment mm-hmm. on apprend ensemble à communiquer, à se comprendre.
Ouais.
Tout est le...
Mais ouais.
Voilà.
Mais on le sent. Enfin, moi j'ai été voir ça il y a un an, je crois.
Ouais, ouais.
Et on le sent, cette progression où petit à petit on a l'impression que vous vous détendez dans le corps l'autre et du coup vous comprenez que c'est pas si évident que ça au final.
Bien sûr.
Ouais, c'est pas si évident que ça d'être une femme et pas si évident que ça d'être un homme. Et donc en plus, avec nos problématiques chacun, il faut réussir, quand on est en couple, à se rassembler et à se comprendre.
Ouais. C'est clair. Mais c'est vous êtes là pendant cette période, on va dire, d'apprentissage, ouais, on peut dire. Vous vous êtes vachement mis en péril.
Ah bah c'est l'histoire du comédien, ça. De faut tester, faut être sur scène. Il y a que celui qui a sauté à l'élastique qui sait s'il peut se prendre le mur ou pas, quoi.
Enfin, ouais.
Après on sauve pas des vies non plus, hein.
Non mais je veux dire par rapport vies, à votre.
Ça peut être parfois ouais, ça peut parfois être questionnant quand on ressort. On se dit mais pourquoi ça n'a pas ri là. Donc eh bien on trouve la solution.
Et c'est non mais il faut se prendre des fours pour pouvoir justement voilà. Enfin voilà, l'échec n'existe pas, c'est juste c'est une clair. Expérience quoi. Ouais, et voilà. Ça c'est, je veux dire, comme dans la vie.
Et c'est parce qu'en fait on voit souvent dans des one man shows tout ça où si ça passe matché, il y en a beaucoup qui abandonnent.
Bien sûr, ouais. Non,
faut pas avoir peur en fait du coup de vous mettre en péril pour créer un.
C'est ça. Il faut jauger. Il faut bien trouver la bonne limite entre ok, là c'est bon, ça marche, là ça marche pas, et il faut pas avoir non plus trop d'ego pour penser que ça marche alors qu'en fait c'est pas le cas.
Ouais.
Oui, parce que l'humour que l'on peut avoir n'est peut-être pas celui.
Exactement.
Des...
Il faut trouver son public aussi, parce que voilà, il y a une forme, il y a des formes d'humour, il y a des formes de public aussi. Et puis,
Là, le public, c'est vraiment un spectacle tout public. Et tous les couples se reconnaissent en Clarisse et en Bertrand. C'est ça qui fait aussi la.
C'est vrai que c'est la force du spectacle. Voilà, qu'on ait 20 ans ou qu'on en ait 80.
Il y a un phénomène d'identification, en tout cas, par rapport à nos personnages. À chaque fois, quand on sort du spectacle, les spectateurs viennent voir et disent oh, mais on a eu l'impression de voir notre couple à l'envers. C'était drôle.
Ouais.
Voilà,
souvent, d'ailleurs, c'est les femmes. Ah, Michel, je te l'avais dit. T'as vu que t'es comme ça. Les hommes, les pauvres, ils demandent rien.
Non, généralement, non. Ils
ne
demandent rien.
Ouais.
C'était bien. Ouais.
C'est ça. On passe un très très bon moment. Enfin, nous, sur scène, en plus, c'est un vrai plaisir de jouer à deux. Donc, c'est communicatif.
Et du coup, là, la comédie, elle a trouvé son public.
Ah, bah oui. Bah, oui, puis. Ouais, c'est ça. C'est,
le bouche à oreille, là, c'est vrai qu'on a sur les réseaux sociaux, notamment sur Billets Réduits, qu'on a des super critiques de spectateurs. Donc, ça fait plaisir. Mais c'est vrai que ça a été un long travail. On s'est remis en question. Pas mal de fois, on a eu la chance de jouer au Spotlight des grandes sessions, du mercredi au samedi, par exemple, tout le mois de juin, tout le mois de septembre, etc. Donc là, on a pu voir clairement ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait pas, et puis garder que le meilleur.
Donc le Spotlight, vous avez vraiment laissé, en fait,
confiance.
Il y a une vraie fidélité entre Marc et Isa et nous. Ils nous ont fait confiance, ils nous ont vu prendre des murs, mais ils ont continué à croire en nous. Et ça, c'est vraiment la force de cette salle pour les humoristes.
Oui, pour tester des choses. C'est vrai qu'ils font des scènes ouvertes, ça donne aussi l'occasion de tester des sketchs.
Ben voilà, on n'apprend pas à faire du piano en se mettant qu'une seule fois devant le clavier. Ben là, c'est ça, quoi.
C'est ça.
Donc en fait, vous l'aviez présenté en scène ouverte le premier, non ?
Non, on l'a présenté directement au spectacle complet.
Alors il y avait déjà une confiance puisque Michael et moi-même avions déjà plusieurs one à notre histoire.
Actif,
voilà. Et du coup, ils ont eu la confiance quand on leur a dit on fait un truc à deux. Ah bah ouais, bon sang, mais c'est bien sûr. Bon, et ils ont vu aussi que d'un jour à l'autre, on travaille. On se remettait en question, et je crois que voilà, c'est la force de cette équipe et la force de ce spectacle. C'est-à-dire que nous l'avons défendu, mais il y a des gens qui nous font confiance, comme Véron, comme le Spotlight. Voilà quoi.
Vous étiez content alors quand Véron a dit oui?
C'était la fête du spectacle.
En fait, moi j'étais même pas venu chercher un oui de la part de Véron. J'étais venu chercher une date.
Voilà. D'accord. C'est-à-dire combien ça va coûter de faire le Sébastopol.
Et Guy Marseguera de chez Véron nous a dit mais écoutez. Ça ne va rien vous coûter parce qu'en fait, sur cette date-là, on va vous produire. Et puis finalement, ils ont décidé de nous produire.
Et sans qu'on couche.
C'est pour ça.
Non, mais ça, c'est bien.
Voilà. Bah, voilà.
Et c'est pour ça que du coup, ils nous ont pris une salle à Avignon. Et que voilà, ils
espèrent.
Aussi.
Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, une fois qu'ils avaient dit OK pour le Sébasto, Guy est venu vraiment nous suivre. Enfin, Véron est venu nous suivre, voir les dates au Spotlight. Et ils ont vu qu'effectivement, il y avait un engouement. Et au-delà de nos espérances, c'était au-delà de la date du Sébastopol. Nous, on veut signer avec vous. On va vous faire faire le... Avignon, et puis voilà, là c'est le début d'une très jolie collaboration.
Donc en fait, t'es venu pour une date, t'es sorti avec.
Avec un contrat.
Voilà.
Et c'était la première fois que je venais chercher, que je poussais la porte d'une production aussi.
Voilà.
Parce que j'ai tellement confiance en ce spectacle que j'ai dit, allez, je vais pousser la porte au moins pour faire le Sébasto, et puis finalement.
Mais c'est parce que derrière, vous aviez beaucoup travaillé.
Là on sème 10 ans de travail.
Puis sur ce spectacle-là, je pense qu'en termes d'écriture jamais sur un spectacle, on avait autant repris l'écriture.
Ah oui, non, moi non plus.
Ah, ouais, ouais.
Ouais. Autant pour les deux.
Bah oui, c'est-à-dire que bien sûr nos solos, on les a retravaillés, tout ça. Mais je pense qu'il y a une émulation. Il y a l'émulation du comédien, d'être deux comédiens sur scène. Mm-hmm. Il y a l'émulation d'écriture. Et du coup, à deux, ça va plus vite. Ouais. C'est plus sympa. Sûr, ouais. Tout est mieux à deux.
Et du coup, il y a deux humours différents.
Oui, aussi. C'est vrai que moi, je... Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas eu le même, mais ça s'est très bien accordé, justement. Ouais.
On n'a pas la même patte, mais c'est vrai que du coup, les deux pattes fonctionnent
très
bien.
Mais il y a le feeling maintenant.
Ouais, voilà, c'est deux ça. Pattes.
Non. Ça fait un gâteau.
Ça fait un gâteau.
Ouais. Ah oui.
Non, mais je veux dire, c'est intéressant d'avoir deux humours, mais qui ont le même feeling.
Mais en fait,
même
c'est exactement
si vous
n'avez
pas le même humour.
Ouais. Ben oui, mais et là, effectivement, d'où l'importance qu'on se connaisse depuis nous, 20 ans. Ouais, puis il y avait l'envie de travailler ensemble, je crois que ça dépasse tout. Une confiance, une envie, on est potes dans la vie et ça aide, quoi.
Du coup, voilà, ça se voit sur scène.
On a un spectacle qui, voilà, clairement, on rigole toutes les 3-4 secondes. Enfin, c'est tout le temps.
On rigole beaucoup.
Tout le temps.
J'aime bien les petites manières de Michael
Bertrand.
De Bertrand en Clarisse.
Ouais, ça c'est marrant. Et que puis toi, quand tu peux...
Finalement,
quand je fais le AK...
Rien pour ça, venez voir ce spectacle, voir Émilie faire le AK.
C'est quelque chose de phénoménal.
Alors moi, à ce moment-là, heureusement, je suis en coulisses, parce que je pense que si j'étais sur scène en même temps qu'elle, je pense que je ne pourrais jamais continuer la pièce. Je serais trop mort de rien. Mais c'est vrai, mais de toute façon, à chaque fois que tu fais le AK, à chaque fois, derrière, les gens applaudissent. Mais c'est fort, c'est vrai que c'est un moment fort du spectacle. Il y en a plein d'autres, mais le AK de Émilie, c'est énorme.
Et pourquoi le AK?
Parce que Bertrand est fan de rugby.
D'accord.
Donc
il fallait mettre le accord.
Ouais. Quand elle se retrouve avec mon corps, avec sa mentalité de mec,
avec un corps de femme, l'âme de Bertrand à faire le AK dans un corps de femme qui, plus est ronde, je crois que là on est.
Voilà, c'est très drôle.
Non, mais c'est vrai qu'elle est, bien faite. Coco ne l'a pas vue, mais
j'ai hâte.
Oui, bien sûr. Donc on répète, c'est.
Le 6 février 2020, à 20h, au théâtre Sébastopol.
Il réservation, Fnac et Sébastopol.
Ouais. Et il ne reste pas beaucoup de place.
Non.
Il en reste, mais ça commence vraiment à bien partir. Ouais. Donc, si vous voulez avoir des catégories 1, c'est super bien placé, il faut vous dépêcher.
Ouais. Bon, voilà, on voit bien partout.
Ouais.
Ouais. Ouais.
Oui. Ben, ça, c'est la qualité de
ce théâtre.
Ça, c'est bien.
Ouais.
Et donc, du coup, donc à la fin, il y a une surprise.
Ah, une belle surprise.
On peut pas demander ce que c'est,
mais on va dire. En fait, on peut donner un indice.
Oui, un
chauve.
Indice.
Chauve.
Chauve.
Ouais. Je ne montre rien sur scène. Hein,
un bon indice.
Mais, oui, c'est un bon indice. Mais voilà, donc, et puis il y aura une première partie aussi.
Ouais.
Et pareil, ça sera une surprise.
Une belle surprise.
Voilà. Mais
ce n'est pas vous.
Non, mais c'est. C'est vraiment quelqu'un qu'on aime beaucoup et qu'on a envie de défendre et de partager ce moment magique avec lui.
Voilà.
Bah c'est bien.
Ouais.
Donc en fait, ça va durer combien de temps en tout?
On va être sur du 1h45, je pense.
Ouais, 1h45.
Ah ouais, donc c'est bien.
Ouais, 1h45.
Mm-hmm. Un bon moment, quoi.
Un bon moment.
Ça va être un très bon moment.
On a calculé à la minute, ça fait moins d'un euro.
Ça
merde, quoi. Attends. C'est donné à ce prix-là.
Bah ouais.
Mais du coup, est-ce que, moi, ma question, si on vient vous voir, est-ce qu'on a le droit de faire des photos avec vous?
Bah, bien
à la fin du spectacle.
Ah, bah oui, ou pendant. Si tu veux, on peut monter sur scène.
Coucou, c'est juste nous. Non, mais bien sûr, après le spectacle, il y aura une séance de dédicace.
Dans le hall, du coup.
Dans le hall.
Et donc, séance de dédicace, vous avez prévu des petites photos ou
oui, non, ça, on n'a pas prévu de photos. On pourra en faire avec. Maintenant.
Parce que séance de dédicace, du coup, ça va être.
Non, mais sur les flyers.
Sur les flyers voilà.
Ah, ben non, attends, nous, on va faire ça, puis on va dire des séances de dédicace là. Ouais, non, mais c'est bien de pouvoir être proche.
Mais c'est un peu notre force, je pense, à Michael et moi. C'est comme on vient du monde de l'impro, on ne peut pas se permettre. Enfin, on ne pourrait pas jouer, je pense, en quatrième mur. Ça veut dire qu'il n'y a aucun échange entre le public et nous. Et c'est vrai que la générosité, du coup, c'est un échange, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de comédien, il n'y a pas de public. Donc, le public, c'est une évidence que
c'est avec vrai qu'à la fin de chaque spectacle, par exemple, au Spotlight, quand on termine le spectacle, on sort de la scène et on dit au revoir au public qui sort. Donc, alors peut-être que là au Sébastopol, on ne pourra pas faire ça parce que normalement il y aura 1300 personnes, donc ça sera compliqué. Mais en tout cas, 10 minutes après le spectacle, on viendra dans le hall et faire des autographes et des photos, évidemment.
C'est le Spotlight, c'est intime.
Ouais, c'est super. Ouais,
c'est 150 places.
150 places.
Ouais, quand même.
Ah ouais. Ouais, quand même. Mais ça reste intime quand même.
Mais ouais, c'est ça qui est, mais c'est la magie de cette salle, c'est-à-dire qu'il y ait 30 personnes ou 150 et on est proche quoi.
Et ce qui est génial finalement, c'est que le Spotlight, c'est cette magie-là de proximité du public, oui, qu'on retrouve au Sébasto dans une salle 10 fois plus grande. Mmh. Mais il y a la même intimité, c'est ça qui est
fou. Mais c'est les gens du Nord.
Oui,
et la configuration de la salle fait qu'on est vraiment proche des gens, et ça, c'est chouette.
Ouais. Mais vous avez déjà joué hors Nord?
Oui. Oui.
Hors nord, Pas-de-Calais.
Oui, oui.
Là, on va jouer à Angers pour le 14 février, pour la Saint-Valentin.
On doit aller à Nice, on doit aller.
On a Nantes. On doit. Qu'est-ce qu'on fait aussi
Je sais plus. J'ai plus que la tournée en place. Mais puis Avignon, mais c'est vrai qu'on a. Voilà. Là, on va s'exporter de plus en plus.
Ouais.
Parce qu'elle a été rodée, effectivement, dans le Nord, mais là, on va partir sur les routes de France.
C'est cool, ça. Ouais. Ah, parce que du coup, je pense que l'humour n'est pas le même, non, dans les diverses régions, ou ça reste...
Alors, le public n'est pas le même, je dirais. Ouais. L'humour n'est pas le même, ça va dépendre. Par exemple, quand on voit, par exemple, Bienvenue chez les Ch'tis, qui est très nordiste, ouais, ouais, il a fonctionné, mais partout, à tel point qu'il a été réadapté, même aux États-Unis.
Quand je pense que...
Pardon ?
Moi, je n'ai pas vu aux États-Unis, réadapté aux États-Unis.
Ah oui, je sais que. Je ne l'ai pas vu non plus, cette version-là, mais je sais que ça a été. Les droits ont été rachetés. Alors peut-être qu'ils se le sont appropriés avec une région comme le Texas.
Voilà.
Mais ce que je veux dire, c'est que. Non, en plus, ce spectacle-là, il n'y a pas de régionalisme sur ce spectacle-là.
Non, on ne parle pas du tout en patois. Non, mais je veux dire, c'est pas marrant.
Je ne pense pas qu'il y ait différentes formes d'humour parmi les régions. Par contre, il y a quand même d'autres attentes, que ce soit dans les grandes villes ou dans dans les campagnes, par exemple. Ça, c'est vrai que j'ai remarqué. Et puis, quand on va jouer dans le sud, c'est pas le même ressenti. Les gens vont pas rire au même endroit. Et c'est vrai que c'est chouette aussi.
Il y a des références culturelles un peu différentes, ça, c'est sûr. Mais sur le couple, c'est tellement
universel
que tout le monde va s'y retrouver.
C'est clair. Mais du coup, ça va vous permettre aussi peut-être d'enrichir votre spectacle.
Ah oui, certainement. Et puis je pense que si on figeait le spectacle, ça nous rendrait malheureux, Mickaël et moi. On a besoin de challenge.
Je pense que les gens, on viendrait voir ça une fois au final.
Il y a des gens qui ont vu notre spectacle 3-4 fois, qui nous ont dit qu'on a redécouvert des choses, et ça, c'est assez sympa.
C'est
ça,
en fait. Revenir au Sébasto.
Et qui reviennent au Sébasto.
C'est aussi pour ça qu'on s'est dit, bon, allez, il y a quand même pas mal de personnes qui ont déjà vu le spectacle, qui vont revenir pour l'occasion, pour l'événement. Et donc, il faut aussi qu'on fasse une petite surprise à la fin, au moins.
Mais donc, en fait, t'as des groupies, alors, Mickaël ?
On en a.
On en a
des groupies.
Ah ouais ? Vraiment ?
Non.
Alors, c'est jamais.
Non, mais on a des fidèles, on a des spectateurs fidèles qui viennent nous voir, que ce soit dans nos solos, Oui, il y a des gens qui nous suivent.
Oui, puis moi, j'aime pas le mot fan, parce que derrière, il y a fanatisme, et tout ce qui est fanatisme, ça me fait peur.
J'ai dit groupie, j'ai pas dit fan.
En tout cas, il y a des spectateurs fidèles.
Voilà. Ouais, ça, c'est le plus important. Ouais.
Bien sûr.
Ouais, ouais. Du coup, ils viennent au Sébastopol.
Exactement.
Bah, on va vous laisser pour une petite page de pub.
Ouais.
Et puis après, on se retrouve après. Vous restez avec nous,
évidemment,
jusqu'à la fin. Après, on retrouve Coco.
Oui.
Tu nous as préparé quoi de beau ?
Alors, je vais vous parler de purge.
Ça tombe bien, je vais aller aux toilettes.
Voilà. Ça va être une gaie émission, moi, je vous le dis. Hein. Ça commence fort.
Petit détox après Nouvel An.
Ouais. Donc, on vous laisse et puis à tout de suite.
À tout de suite.
Artisan.